sur quoi le royaume subit une extrême froidure, comme si les os de ce prince, d'avoir été descendu, faisaient geler d'un coup la terre de France. Il serait aisé pour les gens de cette époque de se rappeler l'année de sa mort. Ils n'auraient qu'à dire « c'était au temps du grand gel ». La Seine était entièrement prise par les glaces. On traversait à pied ces petits affluents, tels le ruisseau de la Grange-Batelière. Les puits étaient gelés, et l'on puisait aux citernes non plus avec des seaux, mais avec des haches. L'écorce des arbres craquait dans les jardins. Des ormes se fendirent jusqu'au cœur. Les portes de Paris connurent quelques grands dégâts, le froid ayant fait éclater même les pierres. Des oiseaux de toutes sortes, qu'on ne voyait jamais dans les villes, des geais, des pies, cherchaient leur nourriture sur le pavé des rues. La tourbe de chauffage se vendit à prix double, et l'on ne trouvait plus fourrure dans les boutiques, ni une peau de marmotte, ni un ventre de menu vert, ni même une simple toison de mouton. Il mourut beaucoup de vieillards et beaucoup d'enfants dans les demeures pauvres. Les pieds des voyageurs gelaient dans leurs bottes. Les chevaucheurs délivraient leurs courriers avec des doigts bleus. Tout trafic fluvial était arrêté. Les soldats, s'ils avaient l'imprudence d'ôter leurs gants, laissaient la peau de leurs mains collée sur le fer des armes. Les gamins s'amusaient à persuader les idiots de village de poser la langue sur un fer de hache. Mais ce qui devait demeurer surtout dans les mémoires était une grande impression de silence, parce que la vie paraissait arrêtée. À la cour, l'an IX fut célébré de façon assez discrète, en raison à la fois et du deuil et du gel. On s'offrit néanmoins le gui, et l'on échangea les cadeaux rituels. Les comptes du trésor laissaient prévoir pour l'exercice qui se clôturait à Pâques un excédent de recettes de 73 000 livres, dont 60 000 provenaient du traité d'Aquitaine, sur lequel Robert d'Artois se fit allouer 8 000 livres par le roi. C'était bien justice, puisque depuis 6 mois, Robert gouvernait le royaume pour le compte de son cousin. Il activa la nouvelle expédition de Guyenne, où les armes françaises remportèrent une victoire d'autant plus rapide qu'elles ne rencontrèrent pratiquement aucune résistance. Les seigneurs locaux, qui essuyaient une fois de plus la colère du suzerain de Paris contre son vassal de Londres, commencèrent à regretter d'être nés gascons. Édouard, ruiné, endetté, et qui se heurtait à des refus de crédit, n'avait plus les moyens d'expédier des troupes pour défendre son fief. Il envoya des bateaux pour ramener sa femme. Celle-ci venait d'écrire à l'évêque de Winchester afin qu'il en fît part à tout le clergé anglais. « Vous, ni autre de bon entendement, ne devez croire que nous laissâmes la compagnie de notre Seigneur sans trop grave cause et raisonnable, et si ce ne fut pour un péril de notre corps par le dit Hugues, qui a le gouvernement de notre dit Seigneur et de tout notre royaume, et nous voudrait déshonorer, comme nous sommes bien certaines pour l'avoir éprouvé. Si longtemps que Hugues sera comme il est, tenant notre époux en son gouvernement, nous ne pourrons rentrer au royaume d'Angleterre sans exposer notre vie et celle de notre cher fils à péril de mourir. » Et cette lettre se croisa justement avec les nouveaux ordres qu'au début de février, Édouard adressait aux shérifs des comtés côtiers. Il les informait que la reine et son fils, le duc d'Aquitaine, envoyés en France dans un désir de paix, avaient, sous l'influence du traître et rebelle Mortimer, fait alliance avec les ennemis du royaume. De ce fait, au cas où la reine et le duc d'Aquitaine débarqueraient des nefs par lui le roi envoyé, et seulement s'ils arrivaient avec de bonnes intentions, sa volonté était qu'ils fussent reçus courtoisement. Mais s'ils débarquaient de vaisseaux étrangers, et montrant des volontés contraires aux siennes, l'ordre était de n'épargner que la reine et le prince Édouard, pour traiter en rebelles tous les autres qui sortiraient des navires. Isabelle fit par son fils informer le roi qu'elle était malade et hors d'état de s'embarquer. Mais au mois de mars, ayant appris que son épouse se promenait joyeusement dans Paris, Édouard II eut un nouvel accès de violence épistolaire. Il semblait que ce fût chez lui une affection cyclique qui le saisissait tous les 3 mois.